9h29, on est un petit peu en retard, c'est l'heure du club de lecture avec Émilie, bonjour.
Bonjour Paul, on n'est jamais en retard dans cette émission.
Jamais,
Paul.
jamais.
On se laisse aller, on suit le feeling.
Exactement, et des petits ajustements en cours de route. Mais avant de plonger dans des propositions de livres, comme c'est le début de l'année, message, une résolution pour les auditeurs et les auditrices.
Hey, je sais qu'il y a beaucoup là, de résolutions puis de défis qu'on se donne. Puis moi, j'en vois passer souvent, on voit un défi en termes de lecture qui est 52 livres par année. T'sais, cette année, on se donne le défi de lire un livre par semaine. Moi, j'ai pas envie de le quantifier, mais j'ai envie qu'on se donne un objectif. Ce serait de lire 30 minutes par jour. La vérité, évidemment, c'est qu'on peut commencer par 5, 10, 15 minutes, mais éventuellement, ce serait bien, je crois, qu'on prenne cette habitude-là de lire 30 minutes par jour. C'est un plaisir qu'on se réserve, je trouve, beaucoup trop souvent pour les vacances.
Ça, c'est vrai.
On attend. Quand je serai en vacances, je vais lire. Mais si ça nous fait du bien en vacances, pourquoi ça ne nous ferait pas du bien au quotidien? Puis là, évidemment, il faut trouver la période de temps. Je ne suis pas en train de dire lisez 30 minutes de 17h30 à 18h. Je comprends qu'on a tous des vies. Pourquoi pas le faire avant de se coucher? Ça devient une solution très facile parce que, évidemment, ça nous détourne de notre cellulaire qui est toujours en train de nous stimuler. Donc, on se plonge dans une lecture. Là, je vous dis 30 minutes, c'est pas un chiffre que je prends comme ça au hasard. Il y a une étude scientifique de Yale qui l'a démontré, puis c'est une étude très sérieuse là, qui a été prolongée sur 12 ans. On dit que la lecture profonde, donc 30 minutes par jour, ça amène un engagement cognitif et ça développe le raisonnement, la concentration, l'esprit critique. Bref, j'ai envie de vous lancer ce défi-là. Je vous invite tous à m'écrire sur ma page Facebook parce que je vais faire un suivi. Et si vous le faites, si vous lisez 30 minutes par jour, j'aimerais ça que vous m'écriviez pour me dire c'est quoi les changements que vous voyez et à quel moment vous arrivez à lire. Alors, c'était ma portion coach de vie et de remise en forme culturelle.
Bon, ben ça, c'est très bien. C'est très bien. Donc, voici la suggestion. Puis c'est vrai que c'est... C'est quoi? C'est juste d'y penser.
Oui.
Parce que c'est vite 30 minutes, là.
C'est pas grand-chose.
Tu sais, comme en fin de semaine, on peut pas dire que c'est une température très stimulante.
Oui.
C'est un joli prétexte pour commencer à lire.
C'est ça. Puis tu le gardes sur le bord du lit, puis à tous les soirs, ne serait-ce que pour s'endormir plus facilement. Moi, souvent, en fait, quand j'ai commencé à le faire, je te fais 5 minutes, puis je m'endormais. Mais là, maintenant, j'arrive à atteindre mon 30 minutes par jour.
On commence par quoi?
Ben là, je vous propose un roman peut-être pour tenter donc cette nouvelle habitude. Fille de fer. C'est un premier roman d'Isabelle Grégoire. C'est une journaliste, elle. Puis elle a trouvé la genèse de son idée dans un reportage qu'elle avait fait à l'époque pour l'actualité. Donc, elle avait suivi la première femme conductrice de train minier au Nord. Et l'intrigue donc commence au moment où un train déraille. Donc, le personnage principal, Marie, se réveille. Après un accident de train, elle est dans une maison d'un ermite qui vit en forêt, qui l'a secouru donc après le déraillement. Et quand finalement, il va retourner au camp, bon, évidemment, il est accueilli en héroïne parce que tout le monde l'a cherché pendant une semaine, mais ça ne fait pas vraiment l'affaire de ses collègues masculins, toute l'attention qu'elle reçoit parce qu'elle est la première femme conductrice de train. Et au même moment, il y a un incendie criminel au garage. Il y a une maladie qui normalement affecte les chauves-souris qui, là, s'est attaquée à tous les autres chauffeurs. Alors, est-ce qu'elle serait la sorcière responsable de tout ça, Paul?
C'est effrayant.
C'est effrayant. C'est vraiment un très bon premier roman et aussi avec tout cet environnement-là qui est un peu hostile à ces pionnières-là et qui aborde aussi, je trouve, l'importance d'avoir le courage de nos convictions. Donc, ça s'appelle « Fille de fer » d'Isabelle Grégoire. Et ça, vraiment, je l'ai dévoré là, en un week-end. Là. C'est quand tu embarques dans cette lecture-là, tu te rends jusqu'au bout.
Bon, ta deuxième proposition, je n'ai pas lu au complet. J'ai commencé à le feuilleter avant Noël, ouais. On devait faire une entrevue avec elle, puis finalement, ça ne s'est pas concrétisé.
Okay.
Alors, For the Love of Man, et c'est bien sûr Elizabeth Plank.
Oui, donc qui est une jeune femme de Montréal, mais qui travaille à New York pour Vox Media. Donc, féministe fabuleuse sur les réseaux sociaux que vous suivez peut-être. Donc, elle s'intéresse, Elizabeth Plank, à la question de la masculinité. Mais comme le titre le dit, For the Love of Man, c'est vraiment dans un angle de très grande tendresse. Donc, on n'est pas là pour critiquer la masculinité. Au contraire, elle s'intéresse vraiment à toutes ces questions-là de double standard. Souvent, on le voit d'un point de vue féministe. Bon, ben les femmes ont été victimes de tout ça. Et elle a dit, mais attendez, les gars aussi sont victimes de ça, de cette image-là qu'on leur dit, c'est quoi être un vrai homme? Il y a une façon d'être un vrai homme, il y a des standards, il y a des préjugés. Et elle dit, il n'y a pas que les femmes qui en souffrent de ça, les hommes aussi. Et elle s'intéresse donc vraiment dans cet essai-là, puisqu'elle propose finalement, c'est de faire de la masculinité de pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est ça que ça veut dire.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La pleine conscience, en fait, c'est d'être conscient de pourquoi on pose un geste. Alors, quelles sont nos motivations? Quand je réagis de cette façon-là, est-ce que je le fais parce que la société s'attend à ce que j'agisse de cette façon-là comme un vrai homme, ou je le fais parce que profondément, c'est ce que je crois. Donc, c'est vraiment une lecture, je trouve, qui nous amène à nous questionner, mais surtout, je trouve qu'elle a trouvé le bon ton pour en parler, parce que rapidement, ça peut devenir une guerre des sexes, là. On sait bien, les gars sont comme ça, les filles sont comme ça. C'est pas ça du tout la question, c'est juste de dire...
Quand j'ai commencé à lire, la question que je me suis posée, puis je vais continuer, là... Oui. Est-ce qu'on est dans des clichés là qu'on voit venir un peu trop facilement, oh oui, ou si c'est peut-être...
Mais on approfondit. C'est sûr que moi, une des choses que j'ai remarquées dans cet essai-là, c'est que ça parle beaucoup évidemment de la réalité aux États-Unis parce qu'elle habite à New York. Mais souvent, elle cite le Québec comme exemple. Tu sais, quand on parle de l'impact du congé parental pour les pères, ça a effectivement changé quelque chose dans l'habitude de vie des pères qui, dès les premières semaines, s'impliquent. Donc, c'est sûr que ça change un peu ta façon d'être un homme par rapport à, aux États-Unis où on a encore peut-être parfois des habitudes un peu plus conservatrices. Donc, je suis d'accord aussi. C'est vrai que parfois, on est un peu dans le cliché. Bon, évidemment, le gars n'est pas obligé de payer lors de la première date. Là. Et ça, Pierre-Yves, ça fait longtemps qu'il nous l'a dit. Il faut se plier
la quatrième,
facture.
Il paye pas.
Mais d'abord, tu vas prendre une marche, hein? Oui. Pas besoin d'aller au restaurant.
Il n'y a pas de dépense,
pour dater, là. Mais non, ça va vraiment plus loin que ça. Puis je trouve qu'il y a une vraie belle réflexion. Donc, For the Love of Men. Pour l'instant, c'est disponible seulement en anglais. J'espère que ce sera traduit. Mais si vous lisez bien en anglais, moi, je vous invite à vous intéresser donc à cet essai de Liz Plank.
Et proposition de littérature pour les jeunes.
Oui, je suis tombée là-dessus à la librairie. On a tous besoin d'histoires. C'est un petit manifeste qui est distribué gratuitement. Et c'est un appel à l'action, en fait, pour s'assurer qu'on développe très rapidement l'habitude de lecture chez les enfants. Et à la toute fin, il y avait un message aux politiciens, message aux parents et message aux journalistes. Puis là, on disait, les journalistes, qui va parler de littérature jeunesse à une heure de grande écoute? Et là, je me sentais un petit peu concernée.
Un petit peu de pression, là.
J'ai dit, OK, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Donc, moi, je vais vous proposer une série de livres que j'aime beaucoup avec mon fils Hans. Ça s'appelle « Singe et gâteau ». Donc, ce sont des livres qui sont aussi amusants, mais philosophiques. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'est le titre du livre. Donc, le singe, le personnage, a une grosse boîte. Son ami gâteau est très curieux. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Et le singe lui répond, il y a un chat. Mais c'est un chat magique. Parce que quand j'ouvre la boîte, il disparaît. Alors là, c'est une grande question philosophique. Est-ce qu'on peut croire à quelque chose qu'on ne voit pas? Mais c'est vraiment amené d'une façon super amusante.
Il y a beaucoup de religions dans le monde qui sont alimentées par cette idée-là.
Mais c'est exactement ça. Mais c'est vraiment amené d'un point de vue enfantin. Puis il y a une série avec singes et gâteaux qui apporte donc ces questions-là philosophiques. Mais évidemment, c'est présenté là, de façon amusante. Donc, singes et gâteaux, c'est distribué chez Scholastic. Moi, je vous invite donc à aller découvrir. Puis évidemment, à lire aussi avec les jeunes. Donc, pour les adultes, l'objectif, 30 minutes par jour. Mais pour les enfants, c'est prouvé aussi que 15 minutes par jour avec le parent, c'est l'équivalent d'avoir une baguette magique. Tu sais, en cette ère où on est toujours collé sur nos écrans, de donner cette habitude-là aux enfants de se concentrer sur une histoire avec des images fixes, c'est vraiment bénéfique pour leur petit cerveau.
Et d'ailleurs, l'ex-ministre de la Santé et de l'Éducation, Yves Bolduc, peut vous donner peut-être...
Des conseils,
un point de départ là, dans le choix de vos livres.
Et si vous aimez les romans, lisez des romans. Si vous aimez l'art, vous lisez l'art. Mais j'aime aussi je recommande aussi aux gens d'avoir une lecture assez diversifiée.
Voilà. Ben, c'est un point
c'est
de départ.
C'est pas faux, ça. Paul.
Du tout. Si t'aimes les romans, tu lis quoi?
Les romans.
Bon. Mais ça, tu peux diversifier en même temps. Merci d'être venu ce matin.
Merci, Paul. On va aller méditer là-dessus.
Ça, c'est...
La pleine conscience de littérature.
Voilà. Vous ouvrez la boîte. On vous a dit qu'il y avait un chat, puis le chat n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Angoisse et mystère. On revient après la pause, sujet de tribune téléphonique.